Il fut un temps où le vieux château offrait un abri gratuit à tous les miséreux sans distinction. Celui qui ne trouvait à s'abriter dans le bourg, va-nu-pied ou sans logis, incapable de débourser un pitoyable sou pour la nuit, les soirs de mauvais temps, pouvait y trouver refuge. Là, dans ces ruines, il avait tout loisir de laisser choir et reposer sa caboche encore sainte des lauriers de son ancienne gloire, ne devant payer, en échange de cette hospitalité, que le risque de se réveiller mort, enseveli par la chute soudaine d'un pan de mur. La formule « il vit au château » désignait pour les gens de la ville le dernier degré de misère et de déchéance. Ces vieilles ruines accueillaient à bras ouverts les gueux errants, les vagabonds sans famille, les vieilles femmes solitaires, tout comme l'écrivaillon temporairement sans le sou. Toutes ces créatures survivaient là d'expédient, on ne sait comment, s'acharnant sur l'antique édifice, démolissant plafonds et planchers pour alimenter des feux afin de se chauffer ou cuire leur maigre pitance. Il advint cependant un jour que dans cette société vivant sous le même toit de ruines grises et si étroitement soudée, la discorde se fit, puis une bataille s'ensuivit. Le vieux Yanouche, qui avait été autrefois préposé auprès de quelques petits comtes, s'octroya Séan comme un semblant de légitime propriété et décida de prendre les rênes gouvernementales de ce petit monde. Il procéda à quelques réformes qui, pendant plusieurs jours, provoquèrent sur l'île un tel vacarme de crises et de vociférations que tous, aux alentours, se demandèrent si les Turcs ne s'étaient pas échappés de leur geôle souterraine pour tirer vengeance de leurs anciens oppresseurs. C'était seulement Yanouche qui choisissait parmi les habitants des ruines ceux qu'il voulait garder, séparant ainsi boucs et brebis, ces dernières n'hésitant pas à lui prêter main forte pour en chasser les boucs. Bien entendu, ceux-ci tentèrent en vain de protester et opposèrent une résistance désespérée. Lorsqu'enfin, avec l'aide tacite mais néanmoins déterminante du gendarme du bourg appelé à la rescousse, l'ordre revint dans l'île, il s'avéra que le coup d'État avait pris un caractère résolument aristocratique. Yanouche ne conserva en effet au château que les bons chrétiens, c'est-à-dire de vrais catholiques qui, de plus, pour la plupart, eux ou leurs parents, avaient servi chez le comte et sa noble famille. Il y avait là des vieillards au gros nez violacé plantés sur des visages d'ivrognes, vêtus de redingotes miteuses ou portant la tchamarka, l'habit national polonais. Parmi cette foule armée de bâtons noueux se trouvaient aussi quelques vieilles, braillardes et laides, accoutrées de manteaux et capelines, derniers vestiges d'avant leur déchéance. Tous ensemble, ils formaient un cercle aristocratique étroitement soudé, s'arrogeant au bourg et alentour, en quelque sorte, le monopole de la mendicité revendiquée. Ainsi, en semaine, ils parcouraient la ville, la prière aux lèvres, depuis le seuil des maisons bourgeoises jusqu'aux portes des moins fortunés, se plaignant de leur sort, géniant et demandant l'aumône. Et par là, en profitait-il aussi pour répandre commérages et qu'en dira-t-on. Le dimanche, on voyait cette respectable confrérie rangée en longue file devant le parvis des églises, recevant avec dignité et noblesse la charité qu'on lui consentait au nom du Pan Jésus et de la Pana Marie Mère de Dieu.